service client de l'année 2024, catégorie banque de réseau pour les particuliers. Plus d'infos sur esda.fr. Prêt immobilier sous réserve d'acceptation de votre dossier par le prêteur LCL. Plus d'infos sur lcl.fr.
France Inter lance l'école des Odyssées, un grand concours national de création de podcasts en partenariat avec Belin Éducation.
Vous êtes professeur de CM2 ? Alors embarquez vos élèves dans un projet pédagogique et ludique avec l'école des Odyssées. Choisissez un personnage haut en couleur et fabriquez votre Odyssée tout au long de l'année. La classe gagnante enregistrera son histoire dans les studios de France Inter.
Inscrivez-vous dès maintenant sur franceinter.fr.
En route, mauvaise troupe !
Avec la MAE, le spécialiste de la protection de l'enfant et de la famille, numéro 1 de l'assurance scolaire.
Merci de nous écouter sur France Inter, il est 20h. Luc Chemla pour l'info, bonsoir Luc.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. C'est une habitude chaque année, la bataille des chiffres après les traditionnelles manifestations du 1er mai en cette journée des travailleurs. Plus de 210 000 personnes étaient dans les rues aujourd'hui en France selon la CGT. Le ministère de l'Intérieur n'en a compté que 121 000 de son côté. Ce qui est sûr, c'est que la mobilisation a été bien moins importante que l'année dernière en pleine réforme des retraites. Exemple, à Marseille, en 2023, les syndicats avaient recensé 130 000 manifestants. Cette année, seulement 8 000 selon la CGT, 3 d'après la préfecture. Conclusion, dans le cortège, ce matin sous la pluie, il y avait donc les irréductibles, Maya Baldero-Frodon.
Ce pour qui le 1er mai, c'est sacré.
Traditionnellement, le 1er mai, c'est la défense des droits de celles et de ceux qui travaillent. Qu'il pleuve ou qu'il pleuve pas, je suis là.
Christian, qui se revendique d'extrême gauche, en a des raisons de manifester.
Déjà, la précarité. Ensuite, là, les revendications au niveau des salaires, au niveau du droit du travail, pour les femmes aussi.
Mais cette année, en plus, de nouveaux drapeaux apparaissent dans le cortège, vert, blanc, noir et rouge, aux couleurs de la Palestine. Jamila, militante CGT.
Aujourd'hui, plus que jamais, il est nécessaire d'être dans la rue pour exiger la paix dans le monde, parce que ces guerres détruisent des peuples. Des enfants, des femmes, faut pas le perdre de vue.
Elle regrette que les manifestants ne soient pas plus nombreux, la faute à la météo, mais pas que. Pour Samy, c'est aussi une question de lassitude.
Nous sommes pas très loin de la lutte qu'on a menée si massivement sur la réforme des retraites et qu'on a perdue. Des gens peuvent se dire, bon, finalement, à quoi bon ? Mais prenons-le par la négative, s'il n'y avait rien, ce serait encore pire.
L'an dernier, pour le 1er mai, 130 000 personnes avaient manifesté à Marseille, selon les syndicats, 11 000 selon la préfecture.
Et à Paris, les organisateurs revendiquent aujourd'hui 50 000 manifestants. La préfecture, elle, en a recensé 18 000. Un cortège émaillé d'ailleurs de quelques tensions. Il y a eu par moments des affrontements avec les forces de l'ordre. Une camionnette a notamment été incendiée et plusieurs commerces dégradés. Selon le dernier bilan des autorités, 45 personnes ont été interpellées. Des débordements également à Nantes, dans le centre-ville. Une banque, un supermarché ou encore des magasins ont notamment été attaqués par des manifestants habillés de noir et casqués se revendiquant du mouvement Antifa. Dans un communiqué, la maire de la ville condamne avec la plus grande fermeté les dégradations. Lui avait choisi de défiler à Saint-Étienne, mais rien ne s'est passé comme prévu pour Raphaël Glucksmann. La tête de liste PS Place Publique aux Européennes a été prise à partie par une cinquantaine de personnes, arrosée notamment de peinture. Il a été exfiltré et n'a même pas pu rejoindre le cortège. Ces gens n'impressionnent personne et n'ont le monopole d'aucune lutte, a notamment déclaré le candidat, qui a également souligné avoir vu des drapeaux de la France Insoumise. Une sortie qui a provoqué la colère de Jean-Luc Mélenchon. Après lui avoir d'abord apporté son soutien, le leader d'LFI lui demande à présent de s'excuser pour ce qu'il considère comme des accusations. Nous avons des ennemis redoutables, la dispersion et l'abstention. Déclaration de Jordan Bardella aujourd'hui lors d'un meeting à Perpignan. Favori dans les sondages pour les européennes, la tête de liste du RN a tenu à faire passer un message. S'abstenir, c'est voter. Emmanuel Macron ne lui offrait pas ce cadeau. Quelques minutes avant, Marine Le Pen s'est exprimée et s'en est pris également au président. Elle a appelé à lui infliger la plus cinglante sanction électorale possible lors du scrutin. Le chiffre est colossal. 1,8 tonne de cocaïne saisie sur un bateau au large de l'île de Saint-Martin dans les Antilles françaises. Le hors-bord a amarré un ponton avec à l'intérieur plusieurs dizaines de paquets. Tous les occupants ont pris la fuite. 19 départements au total placés en vigilance orange par Météo France. Le Calvados, l'Orne, l'Eure, la Seine-Maritime et l'Eure-et-Loire le sont pour pluie inondation. Tous les autres, c'est à cause des orages. On trouve notamment dans la liste les 8 départements d'Île-de-France, mais aussi l'Oise, la Somme, l'Aisne, la Marne, l'Aube et l'Yonne. Lyonne. La soirée s'annonce très, très stressante pour les supporters parisiens, car ça y est, c'est le jour J. Dans une heure, les footballeurs du PSG affrontent le Borussia Dortmund en Allemagne, en demi-finale aller de la Ligue des Champions. La composition est sortie, et pas de surprise, avec évidemment la présence notamment de Kylian Mbappé et d'Ousmane Dembélé. Surprise, en revanche, à Madrid, au Masters 1000 de tennis, le double tenant du titre Carlos Alcaraz, éliminé en quart de finale. L'Espagnol a perdu tout à l'heure contre le Russe Andrei Rublev. De son côté, le numéro 2 mondial, l'Italien Yannick Sinner, est blessé et forfait pour la suite de la compétition.
Franceinter.fr présente
Le code a changé.
Xavier Delaporte.
Aujourd'hui, la plupart de notre vie administrative se passe en ligne. Nos impôts, nos relations avec la CAF, tout ça se fait sur Internet.
Le code.
Qui a décidé cela? Avec quelle idée du rôle de l'État et quelles conséquences pour les citoyens? Si c'était un mot qu'il résumait, celui de l'État plateforme.
Le code a changé. Le podcast de nos révolutions digitales.
Abonnez-vous sur franceinter.fr et l'application Radio France.
Bien, j'ai parcouru votre CV, c'est très impressionnant. 12 ans d'expérience dans de grands groupes, comme dans une PME. Vous êtes expert en comptabilité, marketing, sécurité informatique, ressources humaines. Vous parlez anglais, chinois, hindi. Vous pouvez commencer quand ?
Désolé, le mouton à 5 pattes n'existe pas. Mais heureusement, sur APEC.fr, vous trouverez des solutions et de l'aide pour recruter le candidat qui correspond à votre TPE-PME. Rendez-vous sur APEC.fr, c'est gratuit.
APEC, donnez de l'élan à votre avenir.
France Inter, il est 20h06. Dans un instant, hommage sur France Inter à Paul Auster qui vient de nous quitter à 77 ans. Rediffusion à suivre d'une rencontre de l'écrivain américain avec Laure Adler. Mais juste avant, le temps de se brosser les dents, voici Les Petits Bateaux avec Camille Cronier.
Et coucou les petites curieuses et les petits curieux, attention en passant sous les arbres, pff, c'est passé juste à côté.
Bonjour, je suis Quentin, j'ai 10 ans, je voudrais savoir si les oiseaux urinent séparément ou s'ils font tout mélanger, et alors comment ça se passe dans leur ventre. Merci, au revoir.
Waouh Quentin, alors c'est toi qui as 10 ans, mais c'est moi qui vais dire les choses très simplement. Les oiseaux font-ils pipi et caca en même temps? Et si oui, comment ça marche là-dedans? Guillaume Lesaffre, vous qui êtes ornithologue, donc spécialiste des oiseaux, que répondez-vous à cette question de haute importance?
Oui, c'est quelqu'un qui s'intéresse aux vrais problèmes, parce qu'on n'en parle pas toujours, hein, on se dit, oh là là, c'est pas très intéressant tout ça. Et pourtant c'est extrêmement important. Et en plus de ça, ça me permet de parler de quelque chose qui est vraiment original pour chez les oiseaux. J'explique ce que je veux dire, Quentin. Les oiseaux ont un cloaque, c'est-à-dire une cavité, juste avant, ce qui n'est pas leur anus d'ailleurs, mais qui est un orifice, enfin disons, allez, je dis leur trou de balle pour...
Allez, pour être clair, oui.
Voilà. Donc ce trou de balle donne sur un cloaque. Ce cloaque, c'est une cavité. Et dans cette cavité aboutissent à la fois l'urine et les excréments, les fientes, voilà. Et tout se mélange dans ce cloaque, et c'est à ce moment-là que les fientes et l'urine vont être expulsées ensemble. Quand tu trouves une fiente d'oiseau par terre, tu vois qu'il y a du blanc et du noir, très souvent. Hein, je schématise. Bien, le blanc, c'est l'urine, extrêmement concentrée, un peu comme du dentifrice, si tu veux. Hein, ça a un aspect de pâte. Et le noir, ce sont les aliments qui ont été digérés. Donc tu vois bien que les deux ont été mélangés.
Et c'est pas trop liquide, hein, c'est un peu pâteux, comme vous disiez.
Voilà, mais alors ça ne l'est pas trop, ça dépend des espèces, mais ça ne l'est pas trop parce qu'il y a quelque chose d'assez extraordinaire dans l'organisme des oiseaux, c'est que pour se débarrasser des déchets azotés, ils n'ont pratiquement pas besoin d'eau. Parce que eux, ils vont excréter ces déchets azotés sous forme d'acide urique. Alors que nous, les mammifères, nous le faisons sous forme d'urée. Et on a besoin de très 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 peu d'eau pour éliminer l'acide urique, alors qu'on a besoin d'énormément d'eau pour éliminer l'urée. C'est pour ça que nous avons en tout cas, nous mammifères, une vessie qui stocke l'eau dans laquelle qui nous permet d'excréter, de nous débarrasser de ces déchets azotés.
Donc pour être bien clair avec Quentin, hein, chez les oiseaux, tout est mélangé.
Tout est mélangé, c'est bigou.
Comme les chewing-gums, tiens, aussi pénible d'ailleurs à nettoyer quand on s'en prend sur la tête. Salut les matelots.
Les petits bateaux. Posez vos questions par note vocale sur l'appli France Inter.
Merci Camille Cronier. France Inter bouleverse ses programmes ce soir pour rendre hommage à l'écrivain Paul Auster, disparu hier soir. Nous vous proposons de passer une heure avec lui grâce à l'entretien qu'il avait accordé à Laura Adler en 2018 lors de la sortie de son livre 4-3-2-1. Et demain soir, Eva Wester sera de retour pour une spéciale consacrée à Paul Auster. Pour le moment, place à l'heure bleue.
L'heure bleue sur France Inter.
J'avais toujours dit à Ferguson que la vie ressemblait à un livre, une histoire qui commence à la page 1 et qui se déroule jusqu'à la mort du héros, page 204 ou 926. Mais maintenant que l'avenir dont il avait rêvé changeait, sa notion du temps changeait elle aussi. Il comprit que le temps se déplaçait en avant et en arrière, et comme les histoires des livres ne pouvaient qu'aller de l'avant, la métaphore du livre ne marchait pas. Si la vie pouvait se comparer à quelque chose, elle ressemblerait plutôt à la structure d'un quotidien populaire, avec les événements importants comme une déclaration de guerre ou un meurtre dans la pègre à la une, et les nouvelles moins importantes dans les pages suivantes. Mais la dernière page porte elle aussi un gros titre, la meilleure histoire du jour, dans le monde trivial mais captivant du sport, et les articles sportifs étaient presque toujours lus à partir de la fin, en tournant les pages de gauche à droite au lieu de les tourner de droite à gauche, comme il est d'usage quand on lit les articles en partant des premières pages. On avance donc à reculons, comme si on se frayait un chemin, dans un texte en hébreu ou en japonais, remontant régulièrement vers le milieu du journal. Et dès qu'on atteint le no man's land des pages de petites annonces qui ne valent pas la peine qu'on les lise, sauf si on cherche des leçons de trombone ou un vélo d'occasion, on saute donc ces pages pour se retrouver dans le domaine central des sorties cinéma, des critiques de théâtre, de la rubrique du cœur d'Anne Landers et des éditoriaux. Et à partir de là... Et à partir de là, tout peut commencer. Je viens de lire un court extrait qui est situé à l'intérieur du gros roman de Paul Auster intitulé 4-3-2-1. Il est notre invité ce soir et comme chaque soir, et pour lui mais aussi pour notre plaisir, nous allons écouter Juliette Gréco, Amour, poème de Paul Éluard.
Amour. J'entends une foule crier amour en perdre la voix. Amoureux, cela ne fait qu'un cri. Tous les vivants font un vivant. Amour, moi, je suis au-delà. Amour, je suis désenlacé. Amour, j'ai buté sur ton ombre. Amour, je t'avais trop prié, trop caressé, trop exposé. Amour, tu n'as laissé que cendre. Il n'y a plus de profondeur, ni de sommeil, il n'y a plus au fond des temps qu'un inconnu. Unis aux hommes par devoir. Amour, moi, je suis au-delà. Amour, je suis désenlacé. Amour, j'ai buté sur ton ombre. Amour, je t'avais trop prié, trop caressé, trop exposé. tu n'as laissé que cendre.
Quand avez-vous compris la première fois, Paul Auster, que le souffle du vent sur votre visage vous faisait plaisir?
Ah, quelle question! Je ne sais pas exactement quand, mais quand je pense à ce phénomène du vent sur mon visage, j'ai l'impression que ça a commencé très tôt, avant la mémoire même, que je peux trouver maintenant.
Quand avez-vous compris que vous étiez vivant?
Ah, très bonne question. Je crois que c'est parce que mes souvenirs ne datent pas avant... Trois ans et demi. Alors, avant, je ne peux pas capturer les choses. Mais j'ai un très vif souvenir d'un jour, je crois que c'était un dimanche matin, et j'avais 3 ans et demi à peu près. Parce que je me souviens que j'avais on dit tricyclette, c'est ça? Oui. Et mon père m'a donné un fruit. Je croyais que c'était un plum. C'est quoi un plum? Pruneau?
Une prune.
Une prune. Il a dit, va dehors et amuse-toi avec cette prune. Et je me souviens que j'ai pris un morceau de la prune et je n'aimais pas le goût. Et j'ai jeté la prune dans la rue. Et tout d'un coup, j'avais un sentiment d'une immense culpabilité parce que mon père m'a dit de le manger et je ne voulais pas. Et je garde le souvenir de cette culpabilité aujourd'hui, c'est-à-dire 67 ans après. Et peut-être ça, c'est le premier moment où je me sentais vivant. Je ne sais pas, mais c'est possible.
Je me souviens qu'il y a quelques années, vous aviez publié un livre bouleversant sur votre père, après la mort de votre père, et que vous y décriviez très précisément ces moments très étranges où, avec votre femme et avec votre fille, qui était toute petite, vous
étiez
vous étiez venu ranger la maison de votre père.
Oui. Oui, parce qu'il était en train de vendre la maison juste avant sa mort. Alors, il fallait que je nettoie tout pour les personnes qui allaient occuper la maison. Alors, il y avait les deux tâches à faire. C'est enterrer ma père, mais aussi vendre la maison qui était déjà en cours. On a signé un contrat. Alors, ça, c'était un boulot lugubre, il faut dire. Et je crois que le pire moment, c'était quand il fallait que je fasse quelque chose avec ses cravates. Alors, mon père est né en 1912 et est parti de cette génération d'hommes qui portaient des cravates. Je crois qu'il avait toutes les cravates qu'il a jamais portées dans sa vie. Il y avait plus qu'une centaine. Et quand mon oncle m'a annoncé que mon père est mort une dimanche matin, j'étais si choqué, j'ai pas réagi, j'ai pas pleuré, je n'ai rien dit, et même à l'enterrement, je n'ai pas pleuré. Mais c'était quand je donnais ses cravates, sans cravate dans mes bras, il pleuvait, et je donnais ses cravates à la charité. Et le camion de Salvation Army était là. Et c'était quand je portais toutes ces cravates dans la pluie, c'est-à-dire quand je portais toute la vie de mon père dans mes bras, j'ai commencé à pleurer un peu. Et c'était le seul moment où ça m'est arrivé. Étrange comment les objets portent les émotions.
Vous faites dans ce livre un portrait de votre père comme d'un homme qui ne croyait pas tellement en ses capacités, en ses talents, qui était plutôt dépressif, qui était un peu retiré du monde, qui n'aimait pas beaucoup les vanités mondaines, mais non plus être en société, comme on dit. Est-ce que c'est lui qui vous a donné confiance dans la vie ou est-ce que c'est plutôt votre mère?
Je crois que c'était ma mère. Pour elle, j'étais un prince parfait qui allait conquérir le monde. Mais mon père n'était pas contre moi. Il était...
Contre seulement... lui.
Non, il ne s'aimait lui, pas beaucoup. Aussi silencieux, mais pas agressif. Je crois qu'il ne m'a pas compris. Mais ce n'est pas dire qu'il ne m'aimait pas. Mais il était confus par mon existence. Je crois que c'est ça, plutôt. Il faut dire que mon père avait des grandes difficultés de l'intimité, avec les gens avec qui il était très proche, c'est-à-dire sa famille. Mais c'était un homme très généreux aux autres, aux étrangers. Et... il a fait beaucoup d'actes très nobles envers les étrangers. Il a aidé beaucoup de personnes. Et c'était la sorte d'homme qui... tu es en panne dans une autoroute à la campagne, c'est 3 heures du matin, on appelle mon père parce qu'il va aller sortir du lit pour sauver son ami, comme ça. Alors c'était un homme avec des instincts très bons, et aussi avec des traumas, on dit ça, oui.
Des traumatismes.
Traumatismes, oui, à cause de son enfance qui était très, très, très difficile.
Donc une enfance que vous décrivez admirablement bien dans ce texte, Paul Auster, une enfance avec des parents qui s'engueulaient tout le temps, et une enfance matériellement aussi très compliquée pour simplement pouvoir subsister, car... vos grands-parents étaient des immigrants.
Oui, mais c'est pas rare aux États-Unis. C'était pas un cas exceptionnel. C'était que dans le cas de la famille de mon père, on parle, par exemple, maintenant, je veux dire, sur l'invention de la solitude, un livre que j'ai écrit dans les années 70 et au début des années 80. Alors, c'est un vieux livre maintenant. Mais comme je raconte dans le texte, mon père, c'était l'aîné des 5 enfants de la famille. Quand il avait 7 ans, sa mère a tué son père. Et comme ça, toute la vie de la famille a changé. Et je crois parce qu'il était le plus jeune, il a souffert le plus. Je crois.
Aujourd'hui, Paul Auster, vous êtes plus âgé que l'âge auquel votre père est mort et a été enterré.
Oui.
Je me demande si vous auriez pu écrire ce roman très étrange, très, très captivant, très, très, très étourdissant, si votre père était encore vivant.
Ah, mais il y aura 115 ans maintenant, oui. 105 ans. Alors, c'est peu probable qu'il peut être vivant. Mais non, je crois que ça ne m'empêcherait pas. C'est que mon père est mort quand j'avais 30 ans. Alors, il n'a pas lu un seul mot de prose que j'ai écrit. Seulement des poèmes que j'écrivais dans la vingtaine. Et j'ai commencé à écrire les livres de prose après. Alors, il n'a pas vu mes romans et d'autres livres. Non, la chose étrange, c'est que j'ai commencé à écrire 4-3-2-1, 4-3-2-1, à l'âge de 66. C'était exactement son âge quand il est mort. Et... c'était étrange de passer à travers ce rideau invisible et d'être plus âgé que ton père était dans son vivant. Et j'étais un peu hanté par ça au début, les premiers mois, comme je n'avais pas le droit de vivre plus long que lui. C'est tout à fait une sorte de mysticisme bizarre qui n'a rien de rationnel là-dedans. Alors, j'ai commencé ce livre et j'avais peur que... Je pensais que le livre va aller me prendre 6 ou 7 ans d'écrire, parce que, comme vous savez, c'est très long. Et hanté par cette idée de la mort. La chose que je ne voulais pas se passer, c'est que je meure avant de terminer le livre. Alors j'ai beaucoup travaillé. J'ai travaillé d'une manière un peu féroce. Et je suis toujours féroce, mais là, c'était même plus féroce que d'habitude. Et j'ai terminé le livre en 3 ans. Et avec peut-être 4, 5, 6 mois de révision, de petites choses après. Mais essentiellement, le livre a été composé en 3 ans. Une sorte de record. J'ai passé 3 ans au livre beaucoup plus court que ça. Mais bon, c'est fini. Je suis heureux que j'ai vécu de voir la fin du livre.
Dans une correspondance avec un de vos amis, Kotze, pour citer son nom, vous lui expliquez que vous avez des difficultés à rédiger et à terminer ce livre. Est-ce que ce livre a été douloureux dans sa composition et à la fois dans ce jeu de miroir et de labyrinthe qu'il invente?
Quoi, ce nouveau livre? Non, c'était pas douloureux du tout, non. Peut-être que je parlais d'un autre livre, mais non, ce livre-ci, non, c'était un acte de danse. J'étais dans une musique du livre qui s'imposait sur moi, et j'étais... c'était une danse et en même temps une transe. C'était quelque chose qui venait assez vite, et les mots étaient toujours là pour moi. Et normalement, je fais des erreurs quand j'écris un roman. Je vais je prends un mauvais chemin, et puis il faut biffer tout ça et recommencer. Mais là, je crois qu'il y avait seulement un moment où j'ai fait un faux chemin, et j'ai écrit 20 pages qui n'étaient pas dans la bonne direction. Alors je les ai supprimées, j'ai recommencé le passage. Mais à part de ça, c'était écrit comme ça, très fluide.
Nous allons écouter la voix de quelqu'un que vous aimez, je crois, beaucoup, qui s'appelle Borges. Il va s'exprimer à propos de sa nécessité d'écrire. C'est une archive INA.
Je ne vois pas mes histoires comme fantastiques. Quand je les écris, je les vois comme nécessaires, comme inévitables. Je ne peux faire autrement que les écrire. Et les écrire d'une certaine façon. Mais pour les autres, tout serait peut-être plus riche que pour moi. En général, on pense que je commence par les abstractions. Non, ce n'est pas vrai. En général, je commence par la forme elle-même, que j'entrevois comme de loin. Et si j'écris une nouvelle, par exemple, alors je vois toujours très clairement le commencement et la fin. Mais la zone entre le commencement et la fin, ça, il faut que je la découvre, que je l'invente, que je la fabrique. Mais je sais toujours mon point de départ, et je sais quel sera le point d'arrivée, le but. Ça, je le sais toujours. Mais parfois, enfin, je me trompe entre le commencement et la fin de mon récit. Il faut que j'invente tout cela. Et parfois, je l'invente mal, ou je me trompe d'époque, ou je ne trouve pas le nom juste pour le caractère. Je commence en général comme ça, pour entrevoir quelque chose. Alors, quand je l'entrevois, je sais, bien, il y a cette possibilité-là. Cette possibilité-là, au commencement, je ne sais pas si cela sera un poème ou un récit. Puis, après quelques temps de regarder, je découvre, non, ce n'est pas un poème, c'est un récit. Ce sera un récit en prose. Alors, quelle époque me convient-il? Alors, je médite un peu. Puis, tout à coup, je vois que tout cela doit se passer dans un Orient, enfin, plus ou moins lointain et imaginaire, ou que tout cela peut se passer dans les alentours de Buenos Aires, au commencement du XXe siècle, ou que tout cela convient mieux, disons, je sais pas, un autre pays où les personnages doivent être juifs, que ça fait plus vraisemblable ou non. Mais tout cela vient après. Mais je commence par entrevoir une forme. Comme si l'on voyait une île. Comme on ne voyait que les deux, par exemple, que l'Est et l'Ouest. Tout ce qu'il y a entre eux, tout ça, il faut le peupler.
C'est un drôle de français, hein, mais je comprends ce qu'il dit. Et c'est plus ou moins la même chose pour moi, pour les romans. j'ai un sens du commencement et souvent, mais pas tout le temps, souvent de la fin. Mais parfois, la fin que je porte en moi quand je commence le livre change à cause du milieu qu'on trouve en écrivant, comme Borges lui dit. Pour ce livre-ci, j'allais aveuglement, et c'est pas un jeu de mots sur lui, aveuglement, j'ai commencé sans un plan, sans une carte ou un itinéraire, simplement des instincts, des notions qui circulaient en moi. Mais chaque jour, je trouvais les prochaines phrases, les prochains paragraphes. Mais la fin, je ne savais pas. C'était, je crois, j'avais écrit peut-être trois quarts du livre avant que je connaissais comment terminer le livre. Et dès que j'ai trouvé cette idée, l'idée n'a pas changé.
Oui, mais au départ, pour ce gros livre qui fait 1200 pages, à l'intérieur duquel on se loge, à l'intérieur duquel on habite, exactement comme autrefois quand vous publiez vos trilogies romanesques, qui sont maintenant d'ailleurs disponibles en thésaurus, c'est-à-dire quand on va dans une librairie et qu'on achète un bouquin d'austère, eh bien on part avec... je ne sais pas, des mois de lecture, et on va habiter chez vous, dans votre imaginaire, Paul Auster. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais là, c'est ce qui se passe aussi. Vous recommencez à nous inviter dans votre imaginaire. Et au principe, dans le principe de ce dernier livre, il y a quand même l'idée que, eh bien, il peut arriver quelque chose, il vous arrive quelque chose, mais il peut vous arriver autre chose. Alors, oui. C'est quoi? Oui. C'est l'idée de la contingence au sens sartrien du terme ou c'est l'idée du hasard?
Non, c'est pas le hasard. C'est que, comme tout le monde sait très bien, on vit une vie seule et on suit un chemin seul. Mais toujours, il y a la possibilité qu'on pourrait suivre un autre chemin. Et je ne parle pas seulement des choix qu'on fait, mais des circonstances dans lesquelles on se trouve. Par exemple, heureusement, je n'ai pas vécu pendant une guerre. Ma ville n'était jamais occupée par une armée hostile. Heureusement, je n'étais pas sous le bombardement qui a tué mes parents. Et toutes les choses qui peuvent changer une vie entièrement dès la jeunesse ou l'enfance de quelqu'un. Non, mais quand même, il y a des circonstances de famille, par exemple. Qui sont vos parents et quel est votre niveau économique? Ça compte beaucoup dans la vie. Si on est très très pauvre, il y a des difficultés à confronter et à surmonter. Si on est très riche, il y a d'autres sortes de difficultés à surmonter. Mais chaque situation crée une possibilité et à côté de ces possibilités, il y a d'autres possibilités. Et c'est curieux de penser sur cette question. What if? Et je crois que quand on devient plus âgé, on réfléchit beaucoup sur le passé. Ça m'arrive maintenant de regarder ma vie de très loin maintenant, comme une histoire presque. Et je peux trouver dans mon esprit des moments essentiels où j'aurais pu aller à gauche ou à droite. Et j'ai choisi un ou l'autre. Par exemple, vous connaissez ma femme, Siri Ustvedt, un grand écrivain, et ma femme depuis 37 ans maintenant. Le soir où on s'est rencontrés, c'était, je crois, le seul soir possible que cet événement aurait pu se passer. On connaissait en commun à cette époque-là une personne dans l'univers en commun. Et j'étais invité à une lecture de la poésie. C'était une amie qui lisait. Mais j'ai rentré d'un voyage, j'étais fatigué. Je ne savais pas si je voulais aller, mais au dernier moment, j'ai décidé oui. Alors, Siri était à cette lecture. Elle était avec cette seule personne dans le monde qui on connaissait en commun. Et lui, il a fait les introductions. Et toute ma vie a changé à cause de ça. On est ensemble depuis cette nuit. C'est extraordinaire. Alors, si je ne suis pas allé à la lecture, ma vie aurait été différente. Comment? Je ne sais pas, mais sûrement différente. Et notre fille Sophie n'aurait jamais été née. C'est curieux de penser aux choses comme ça.
Alors, en dehors de la délicatesse et de la structure de ce livre et des enjeux littéraires, car il y a aussi des enjeux formels à l'intérieur de votre texte, même si on le lit comme un polar du début jusqu'à la fin, le court extrait que j'ai lu en début prouve bien qu'il y a des enjeux textuels, puisque j'ai lu une seule phrase. Donc il y a des pages entières, sans ponctuation. Il y a comme un coup de poker dans l'histoire de la littérature contemporaine, je crois, dans la publication de ce texte. On y reviendra tout à l'heure. Mais une des questions qu'on se pose pendant la lecture de ce texte, et aussi après l'avoir terminé, c'est: choisit-on vraiment sa vie? Choisit-on vraiment sa vie? Est-ce qu'on peut choisir sa vie?
Non, je ne crois pas. Il y a des moments où on peut, par exemple, décider d'être médecin, par exemple, et on va à l'école pour étudier. Oui, dans ce sens-là, oui, on choisit. Mais parfois, des circonstances interviennent et on ne peut pas choisir. Et on doit faire une deuxième chose, une troisième chose, une quatrième chose. On parlait de mon père, il voulait aller à l'université pour étudier le droit, mais il n'avait pas l'argent pour le faire, alors il a fait autre chose. Et bon, je crois pour la plupart de l'humanité, c'est comme ça. On n'a pas des grands choix dans la vie.
France Inter rend hommage à Paul Auster ce soir. L'écrivain américain est mort hier à 77 ans. En 2018, il était l'invité de Laure Adler à l'occasion de la sortie de son livre 4-3-2-1.
Vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez France Inter, vous écoutez le choix musical de Paul Auster, c'est Tom Waits, Downtown Train.
Outside another yellow moon, it's punctual in the nighttime. I climb to the window and down to the street. I'm shining like a new dime. The downtown trains are full of all those Brooklyn girls. They try so hard to break out of their little worlds. Now you wave your hand and they scatter like crows. They have nothing that will ever capture your heart. They're just thorns without the rose. Be careful of them in the dark. Oh, if I was one,
Nous n'oublions pas que vous êtes aussi cinéaste, Paul Auster, que vous avez réalisé plusieurs films, dont Brooklyn Boogie et Smoke. Smoke, où on entend cette chanson d'ailleurs de Tom Waits, que votre fille Sophie est chanteuse indépendante. Elle travaille pour des labels indépendants en ce moment même à New York. Et que dans ce dernier livre, comme souvent dans vos autres livres, la musique tient une place prépondérante.
Oui, oui. Et je crois que mes quatre garçons, là, les quatre Ferguson, ils sont tous très sensibles à la musique. Et pour moi, c'est essentiel. La vie dépend sur la musique. Je ne peux pas imaginer vivre sans la musique. Je crois que c'est l'art la plus fondamentale pour être humain.
C'est comme une sorte de liquide amniotique, hein, la musique, dans votre dernier livre. Ils ne peuvent pas vivre, ils ne peuvent pas marcher dans la rue sans écouter de la musique, ils ne peuvent pas s'aimer sans écouter de la musique. Ils ne peuvent rien faire sans écouter de la musique. Alors vous savez, Paul, dans cette émission, on demande à une personne extérieure de donner son avis.
Ah oui,
sur
je
l'invité.
Savais pas.
Oui. Bah oui, c'est une surprise.
Okay.
Alors là, on a demandé un de vos plus vieux amis en France, car dans ce livre 4-3-2-1, celui qui vient de sortir, on apprend aussi que très jeune, quand vous étiez un très jeune étudiant, vous êtes venu à Paris, vous avez séjourné à Paris, vous avez vécu à Paris, vous avez travaillé à Paris, et là vous avez commencé à vous faire des amis. Et à l'époque, vous étiez poète, donc nous avons demandé à un poète qui est aussi écrivain, qui est aussi galeriste, qui s'appelle Jean Frémont, de parler de vous. Écoutez ce qu'il dit.
Mon cher Jean.
Mon cher Paul, dans un livre d'entretien qui vient de paraître aux États-Unis, A Life in Words, entretien avec le professeur Ziegenfeld, dont il n'y a pas malheureusement encore de traduction française, tu t'insurges contre une erreur d'interprétation commise par nombre de tes commentateurs. L'erreur est la suivante. Selon eux, tes œuvres autobiographiques, L'invention de la solitude, ton premier livre, Chroniques d'hiver et Excursion dans la zone intérieure, les deux plus récents, seraient en fait des fictions, des pseudo-romans, une sorte de jeu postmoderne. Tu as donc voulu rétablir la vérité et réaffirmer que tes œuvres dites autobiographiques sont clairement distinctes des fictions. Or, voici que paraît maintenant un nouveau roman, 4-3-2-1. C'est donc une œuvre de fiction. Et cette fois, aucun doute n'est permis, car ce n'est pas une histoire qui nous est racontée. C'est celle de l'adolescence d'Archie Ferguson dans les années 50 et 60 à New York. Ce sont quatre histoires, quatre variations possibles de la vie du même personnage. Il est donc bien évident qu'elles ne peuvent pas être vraies toutes les quatre en même temps. Il est fort probable, on le sent, que chacune des versions emprunte des éléments à la réalité et les combine avec l'imagination et l'invention. Mais le point commun, c'est bien ce personnage de Ferguson, un jeune homme qui s'efforce de devenir un écrivain. Lors d'un entretien avec un professeur en vue d'entrer à l'université, celui-ci demande à ton personnage, Ferguson, qui a soumis ses premières tentatives littéraires, pourquoi il donne à ses personnages des noms aussi étranges. Ferguson répond « Probablement parce que ces noms indiquent bien au lecteur qu'on est dans une fiction et pas dans le monde réel. J'aime bien, dit ton personnage, les histoires qui admettent qu'elles sont des histoires, sans prétendre être la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. » Et parmi les histoires que ton personnage invente dans ces années-là, il y a par exemple l'histoire d'un jeune homme qui écrit l'histoire d'un jeune homme qui écrit l'histoire d'un jeune homme qui écrit l'histoire d'un jeune homme. C'est-à-dire plus ou moins les quatre histoires que nous sommes précisément en train de lire. Cet apprenti écrivain de 17-18 ans, il se trouve qu'il est en exact contemporain. Le New York de son adolescence, c'est le New York de la tienne. L'assassinat de Kennedy, la guerre du Vietnam, les émeutes raciales, les premiers émois amoureux dans le climat de cette époque. Et quand ton personnage, Archie Ferguson, arrive à Paris, je dois dire que je n'ai pas pu m'empêcher de trouver qu'il ressemblait furieusement au jeune Paul Auster que j'ai connu, moi, au début des années 70, quand je travaillais avec Jacques Dupin à la Galerie Mag, et que nous avons publié dans la collection Argile tes premiers poèmes, traduits par Philippe Denis et illustrés par Riopel. Alors, les romans ne disent pas toute la vérité, certes, ne disent pas rien que la vérité. Ils ont même ce privilège d'être capables d'énoncer des vérités contradictoires. Mais finalement, ils disent bien des vérités. Car la vérité, c'est d'abord une forme. C'est l'honnêteté d'un projet. C'est sa poursuite sans faille, ici, sur plus de 1000 pages. C'est l'inlassable plaisir de raconter des histoires, de les entrelacer, pour faire apparaître la vie. En te lisant, j'ai pensé au dessin de Giacometti. Les portraits de Giacometti n'ont pas un contour, mais 20, 30, entremêlés, le crayon se cherche. C'est cette multiplicité des contours possibles qui fait que le dessin respire, qu'il a capté la vie. Eh bien, c'est ce qu'on peut dire de ton livre et du personnage que tu nous présentes. Voilà.
Jean, il est très très intelligent, n'est-ce pas? Et je crois il a raison. Tout ce qu'il dit est vrai. Et quand je pense à ce livre et cette question d'autobiographie ou non, maintenant je peux vous dire, c'est une histoire ou des histoires qui vient de ma vie, mais c'est pas un livre sur ma vie. Ça, c'est la distinction. Parce que mon chemin n'était pas le même des Ferguson, ni le premier, le deuxième, troisième ou quatrième. Mais ils partagent beaucoup de choses avec moi. L'amour pour la musique, pour commencer. L'intérêt dans l'écriture. L'intérêt jeune dans les sports. Etc.
Ah,
etc.
le sport, oui, parlons-en, oui. Parce que c'est au moins un tiers du livre.
Non.
Si, les tournois de basketball, attention. Hein.
Il y a quelques scènes sur le sport, mais c'est quelque chose qui est important à ces jeunes garçons. Les Ferguson partagent avec moi une chronologie et une géographie. Mais je ne pourrais pas écrire un roman sur les lieux que je ne connais pas. Je ne suis jamais allé à Moscou, je ne pourrais pas écrire un roman à Moscou. C'est pas possible. Et même les recherches n'aident pas. Il faut avoir vécu les choses, avoir senti les odeurs, avoir senti la qualité de l'air qui entoure ton corps. Et on ne trouve pas ça dans les livres.
Ah bon?
Pour moi, non.
Alors ça veut dire, c'est un grand aveu que vous nous faites là, Paul Auster, parce qu'un des Ferguson découvre que le seul amour qui lui plaise, qui érotise son corps et qui lui permet d'accéder au plaisir, c'est les garçons, c'est pas les filles. Donc vous avez vécu aussi des aventures homosexuelles,
non.
Parce que vous les décrivez avec un érotisme vraiment exceptionnel.
Oui, mais ça, c'était parmi les passages les plus faciles à écrire.
Ah,
même si
parce
moi...
que vous l'avez vécu ou parce que vous l'avez pas vécu?
Non, vous m'avez pas compris. J'ai dit, ce livre vient de ma vie, mais c'est pas un récit sur ma vie. Je comprends le désir sexuel. C'est pas difficile pour moi de transposer un désir pour une femme à un désir pour un homme. Ça, c'est pas difficile du tout. Il y a d'autres choses dans ce livre qui étaient beaucoup plus difficiles à écrire. Mais pas ça.
Par exemple,
toute cette question d'un des très jeunes Ferguson, sa lutte contre Dieu. Ça, c'était dur de entrer dans l'esprit d'un garçon de 8 ans et essayer de pénétrer sa manière de penser pourquoi son père était tué dans un incendie. Et que, parce qu'il pensait avant que Dieu parlait à lui et qu'il pouvait écouter la voix de Dieu dans sa tête. Et ce Dieu a dit, si tu mène ta vie selon les règles, tout va bien pour toi. Alors, le très jeune Ferguson suivait les règles et son père est tué. Et puis, après, Dieu ne parle plus à lui. Alors, il ne sait pas si Dieu existe ou pas. et il est dans une tourmente. Alors, il fait tout ce qu'il peut qui est mal pour être puni par Dieu. Et si Dieu le punit, ça veut dire que Dieu existe. Alors, il rate tous ses cours à l'école. Il fait des choses méchantes et rien ne se passe. Alors, il est dans une sorte de douleur extrême à cause de ça. Il renonce à Dieu. Et là, tous ces passages, c'était dur. Mais parler de la vie érotique, c'est moins difficile que être dans la tête d'un garçon comme ça.
Il y a aussi toute la vie politique des États-Unis que vous décrivez effectivement, comme l'a dit tout à l'heure Jean Frémont, depuis l'assassinat de John Kennedy jusqu'à pratiquement aujourd'hui. Oui. Donc c'est aussi un livre d'histoire avec un grand H.
Oui.
C'est aussi un livre philosophique, comme souvent vos autres livres, Paul Auster, qui pose aussi une autre question radicale. Choisit-on son destin ?
Oui. Oui, vous parlez de l'assassinat de Kennedy, qui m'a marqué beaucoup. J'avais 16 ans à l'époque. Alors, il fallait que... J'ai vécu cet après-midi bizarre dans l'histoire américaine. Mais ce que j'ai fait, moi, après, avec deux amis, tous les trois, on est allés à Washington. Et on a participé à la... On a vu la procession Kennedy, le cheval. C'était le jour de l'enterrement. C'était le jour où Ruby a tué Lee Harvey Oswald dans la prison à Dallas. Ferguson... Dans le livre, ne fait pas ça. Il va tout de suite chez sa petite amie à New York et ils font l'amour pour la première fois. Alors, ça, c'est une bonne différence entre la réalité de ma vie et l'histoire dans le livre. Mais je n'aurais pu écrire sur cet après-midi sans avoir vécu, je crois.
Votre cat Ferguson entretiennent un rapport avec l'écriture. Ce rapport est très différent selon les Ferguson que vous inventez. Il n'empêche qu'à la fin du livre, vous employez une expression assez incroyable pour définir ce rapport à l'écriture. Il y en a un qui est un poète, il y en a un qui est un journaliste, il y en a un qui se destine à être écrivain. Et l'un d'eux, des Ferguson, dit « Est-ce que je vais pouvoir quitter mon monastère de verre ?» en définissant l'écriture.
C'est le journaliste qui dit...
Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que vous êtes dans un monastère de verre, Paul Auster ?
Non, pas moi, non. Je parlais là du journalisme. C'est qu'un journaliste doit décrire des choses qui se passent dans la réalité. Il est rapporteur des faits, mais il ne peut pas participer lui-même. C'est ça ce qu'il... Ça, c'est la méditation sur cette profession. C'est qu'il doit regarder tout et raconter tout, mais il ne peut pas agir. Et c'est comme, il dit, vivre dans un monastère de verre, parce que il ne peut pas sortir. Et finalement, il y a un moment, quand il est étudiant, il quitte le journal pour un moment, il quitte le monastère et ça lui fait du bien. Après, il devient journaliste professionnel après l'université. Mais je crois que pour les journalistes, c'est une grande lutte. Il dit, on peut décrire la personne qui jette la brique dans la fenêtre qui commence la révolution. Mais le journaliste lui-même ne peut pas jeter la brique. C'est ça.
Et vous allez continuer parce que votre livre ne se termine pas. Il se trouve que, voilà, il est terminé pour nous, hélas, lecteurs. Il se termine exactement le 19 décembre 1974, mais on attend la suite.
Ah, je crois pas. Non, je crois que j'ai fini avec les Ferguson et j'ai commencé une autre chose maintenant qui n'a rien à voir avec
ça. Qui va être un très court texte?
Non, c'est... j'écris quelque chose, c'est pas un roman, mais c'est un livre que j'ai bien commencé, j'ai peut-être 70 pages, quelque chose comme ça. J'écris sur un écrivain américain que j'aime beaucoup, qui est, je crois, inconnu en France, qui s'appelle Stephen Crane. C'est un auteur du fin du 19e siècle. Un génie qui est mort à 28 ans et qui a écrit, parmi d'autres, mais le plus célèbre, c'est The Red Badge of Courage. C'est le meilleur roman sur la guerre civile des États-Unis. Et il était poète, journaliste, il écrivait des récits formidables. Et bon, je travaille sur Crane maintenant, parce qu'il faut que je purge ce livre de mon système, le grand roman. Mais j'ai des idées pour d'autres romans plus tard, et j'espère que je vais maintenir la santé pour le faire.
Eh bien, nous, grâce à vous, nous continuons à vivre avec vos Ferguson et nous n'avons aucune envie de purger les Ferguson que vous avez inventés dans ce livre admirablement traduit par Gérard Medal et qui vient de paraître aux éditions Actes Sud. Dernière question, la poésie, c'est fini, Paul Auster ?
On ne peut pas dire ça, mais ça fait presque 40 ans que je n'ai pas écrit un poème.
Ben alors, justement !
Oui. Peut-être un jour, je ferai encore des poèmes. J'aimerais bien.
Ben merci beaucoup, Paul Auster.
Merci, Laure.
C'était l'heure bleue du 2 février 2018. Laure Adler recevait Paul Auster, à qui nous continuerons à rendre hommage sur France Inter, dès demain à 20h avec une émission spéciale d'Eva Bester et d'autres archives qui sont disponibles sur l'application Radio France. Suivre Mishka Assayas et Very Good Trip.
En ce moment, plus que jamais, la recherche est essentielle. Gustave Roussy, classé premier centre européen de lutte contre le cancer, a besoin de vous. Saviez-vous que vos impôts peuvent aider à guérir le cancer de l'adulte et de l'enfant au XXIe siècle? Grâce à votre don, déductible de l'impôt sur la fortune